Radio Kapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, la ministre belge des Migrations arrive aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de travail cette semaine. Elle échangera avec de nombreuses autorités congolaises sur les questions liées sur les allégations de hausse des demandes d'asile politique ou de protection internationale des Congolais en Belgique. Nous parlerons ensuite dans ce journal des FPI qui sollicite l'appui du gouvernement pour le recouvrement de sa créance estimée à environ 300 millions de dollars auprès des tierces. Les détails dans un instant. L'invité de ce journal, c'est le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Muyindo Nzangibutondo. Il lance un signal fort pour la relance agricole, vision du chef de l'État congolais sur la revanche du sol sur les sous-sols au Maniema. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. La RDC reçoit dès ce lundi à Kinshasa la ministre belge des Migrations pour une visite de travail cette semaine. Elle échangera avec de nombreuses autorités congolaises sur les questions liées à ses prérogatives, notamment sur les allégations de hausse des demandes d'asile politique ou protection internationale. De quoi s'agit-il exactement pour faire plus simple? Éclairage de Christian Makasinga.
La version officielle de cette visite belge sera donnée en fin de journée de lundi par la ministre belge elle-même au cours d'une conférence de presse prévue à l'ambassade de Belgique et de Kinshasa. La membre du gouvernement belge enchaînera mardi avec d'autres interventions médiatiques, notamment des interviews exclusives dans certains médias. Mais de la question des migrations dont on parle entre la Belgique et la RDC, il se murmure que le nombre de Congolais de la RDC qui demandent l'asile en Belgique a augmenté depuis l'année dernière, soit plus de 2000 demandes en 10 mois. Des demandeurs qui disent avoir besoin de protection internationale. Des raisons qui ne semblent pas convaincre l'administration belge qui soupçonne, elle, de raisons plutôt économiques. Selon des statistiques qui circulent dans la documentation publique, le Congolais reste à ses jours les ressortissants d'Afrique noire le plus nombreux en Belgique, soit plus de 40% de tous les Africains noirs vivant dans ces pays. Les autres pays concernés étant notamment le Rwanda, le Burundi, le Cameroun, le Sénégal et les Africains du Nord.
Entre-temps, un afflux important de personnes déplacées est observé depuis samedi dans plusieurs villages du territoire de Mahagi, en province de l'Ituri. Ces populations fuient les violences armées signalées depuis les milieux de la semaine à Boulé, dans les territoires voisins de Djougou, où des affrontements opposent les FARDC aux éléments de la rébellion de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP. Le point sur la situation avec Jean-Claude Lokidile.
Il est environ 16h30, heure locale, lorsque la première vague de plus de 500 personnes atteint les villages du groupement d'Amepamitou après près de 3 jours de marche. Selon une source policière, les déplacés arrivent épuisés, certains transportant à la hâte quelques effets personnels, d'autres accompagnés de leur bétail. Parmi eux, des femmes enceintes, des personnes âgées et de nombreux enfants affamés et affaiblis. Ces familles sont pour l'instant accueillies dans des ménages déjà vulnérables ou dans des églises, notamment à Djupakbeche, Djupusiga, Pakenge Pena, Djupalok ainsi qu'Apamitu Paliesh et Siza Nyamukawa. D'autres vagues sont attendues selon des rescapés. Pour rappel, les militaires des FARDC ont lancé depuis quelques jours des opérations militaires dans la zone de Fataki et Loda en territoire de Djougou en vue d'éloigner la présence des combattants de la CRP qui déstabilise cette région selon les autorités militaires. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Et puis, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, CNCALPC, alerte la population du territoire de Walikale sur la présence d'engins explosifs dans plusieurs localités de ce territoire du Nord Kivu. Il s'agit principalement des localités récemment abandonnées par les troupes de l'FCM-23. Le chef des postes de la CNCALPC Walikale invite la population à la vigilance. Les détails avec Jean-Gandou Kabungo.
Alors que de nombreux habitants commencent à regagner progressivement leur villages abandonnés depuis plusieurs mois à la suite des combats entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, CNCALPC Walikale appelle à retourner à la prudence, car d'après cette structure, de nombreuses localités avaient été minées par les rebelles pendant leur occupation. C'est le cas de Kibati, Kachebere, Mpeti, Minjenje ou encore Bukumbirwa. Le chef de poste de la CNCALPC Walikale appelle la population à la prudence. Elle invite à ne pas se rendre pour le moment dans les positions autrefois occupées par le M23. Clément Kabuyandole.
Qu'il plaise aux habitants de Walikale, tant qu'ils n'auront pas vu une délégation des équipes sur le terrain de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre venir visiter pour une supervision et un contrôle systématique de ces enjeux, que personne ne s'y rende parce que nous craignons des pertes de vies humaines dans ces entités.
Clément Kabuyandole demande également à la population de signaler aux autorités compétentes tout objet suspect. Aux enfants, il rappelle qu'il est interdit de toucher ou de manipuler des objets inconnus. Enfin, il invite les parents à sensibiliser leurs enfants aux risques liés aux engins explosifs.
Le Fonds pour la promotion de l'industrie sollicite l'appui du gouvernement pour le recouvrement de sa créance estimée à environ 300 millions de dollars auprès des tierces. Information livrée vendredi dernier par le ministre de l'Industrie ad intérim au cours du Conseil des ministres. Il a par ailleurs proposé un audit du portefeuille des créances afin d'identifier les mécanismes de recouvrement les plus efficaces pour détecter d'éventuels dysfonctionnements internes dans la gestion des ressources. D'autres détails dans cet extrait du compte rendu de ce conseil lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katemwe, est sélectionné par Richard Junior Kamunga.
Cependant, au regard de la nature des dites créances, les dettes étant reconnues, les montants déterminés, les échéances dépassées et les débiteurs identifiés, attendre les conclusions de cet audit pourrait causer un préjudice financier, tant au FPI lui-même qu'au secteur industriel dans son ensemble, particulièrement en ce moment où l'économie congolaise dans son ensemble et les secteurs industriels en particulier, en grande besoin des ressources financières. Pour ce faire, le ministre de l'Industrie a proposé l'implication du gouvernement par la mise en place d'une commission spéciale qui aura pour mission de catégoriser les débiteurs de bonne ou de mauvaise foi, de négocier des protocoles de transaction pour les créances récupérables à l'amiable, d'engager des actions de recouvrement forcé avec l'appui de la force publique, de proposer des mesures conservatoires sur les patrimoines des débiteurs insolvables, faire accélérer l'avènement du décret portant mesures d'application de la loi numéro 23/032 du 28 juin 2003, modifiant et complétant l'ordonnance loi du 11/89/031 du 7 août 89 portant création de la taxe de promotion de l'industrie.
Dans la province de la Tchopo pendant ces temps, les temps de l'impunité semblent révolus au sein de l'administration fiscale. Une quarantaine d'agents sont désormais dans les viseurs de la justice interne pour des fonds volatilisés. Les sommes dues varient de 20 000 dollars à plus de 24 000 dollars américains par individu. Le point avec Jacques Moukonkole.
L'affaire fait grand bruit et l'administration a choisi la méthode forte pour que nul n'en ignore. Le communiqué officiel ne se contente plus des murs des installations de la DGRNFT. Il inonde littéralement les réseaux sociaux depuis quelques jours, circulant de groupe en groupe comme un avertissement public. Les agents concernés sont placés devant leurs responsabilités. Ils ont le choix de confirmer ou d'infirmer ces chiffres en apportant des pièces justificatives à l'appui devant l'inspection des services. Mais attention, le compte à rebours est lancé. Les concernés ont jusqu'au 15 avril pour régulariser leur situation. Passé cette date, la complaisance n'aura plus sa place. La direction l'annonce sans détour. La phase de répression deviendra effective contre ceux qui n'auront pas pu blanchir leur gestion. À la Tchopo, le message est clair. Chaque dollar dû à la province doit retrouver le chemin du trésor public. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Vous ne le saviez peut-être pas, le 12 avril de chaque année est aussi la Journée internationale des enfants de la rue, instituée en 2011 par le Consortium pour les enfants des rues, un réseau international d'organisations de défense des droits des enfants. Cette journée est dédiée à la sensibilisation aux conditions de vie précaires de ces enfants et à la nécessité d'actions concrètes pour leur protection. Dans la région de Beni Butembo au Nord Kivu, le phénomène connaît une nette aggravation depuis plus d'une année. Le point avec Martial Papimukeba.
Des enfants visibles à plusieurs coins des rues circulent dans les marchés, devant les banques et les supermarchés, des jours comme des nuits, dont certains réduits à la mendicité. C'est le constat préoccupant à Beni et Boutembo. Pour Joël Kavuya, encadreur principal du Parlement d'enfants dans la région, cette situation est en grande partie liée à l'arrivée massive d'enfants déplacés et enfui les conflits dans certaines zones du nord et du sud Kivu. Il appelle à une prise en charge urgente par les autorités.
Depuis l'occupation de plusieurs zones par la FCM-23, de nombreux enfants déjà vulnérables et enfuis de Goma, Rutshuru, Kiwanja et Bukavu, parfois sans leur famille, et d'autres avec leur famille sans moyens, se retrouvent livrés à eux-mêmes en passant jour et nuit dans les rues de Beni et Boutembo à mendier. Nous appelons ainsi donc aux autorités compétentes à prendre des mesures urgentes pour leur protection et leur prise en charge.
Malgré nos tentatives, aucune réaction n'a été obtenue du côté des autorités en charge des affaires sociales à Beni et Boutembo. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La province du Maniema réclame son intégration dans le projet couloir vert Kivu-Kinshasa. Disposant de plusieurs potentialités forestières et environnementaux, la province du Maniema mérite d'être partie prise du décret de Madame le Premier ministre. Les députés nationaux de Kailo Amisi Patrick Lupia plaide à la chef du gouvernement qu'elle revienne sur son décret afin d'intégrer aussi la province du Maniema. Amisi Patrick Lupia revient sur le contenu de son plaidoyer au micro de Florence Kizalunga.
Vous savez que la province du Maniema, après le démembrement de la Tchopo, du Grand Bandundu et de l'Équateur, la province du Maniema est restée la première province forestière. Et nous avons 3 aires protégées. Alors, on s'est étonné comment, lorsque Madame la Première ministre avait signé son décret, et que la province du Maniema n'a pas été reprise dans ce décret-là. C'est pourquoi nous avons rappelé à Madame la Première ministre qu'on puisse revisiter ce décret et que la province du Maniema soit partie intégrée dans les décrets créant les couloirs verts Kivu-Kinshasa. Il y a beaucoup de programmes qui sont envisagés, non seulement par les gouvernements, mais aussi par les partenaires dans le secteur de l'environnement. C'est pour cela que nous voulions rester plus légal, des légalistes, parce que on ne veut pas que la province de Maniema fasse partie de ce processus comme province à la proximité de ces couloirs. Nous voulons que la province de Maniema soit partie intégrale légalement, c'est-à-dire qu'elle soit reprise dans les décrets portant création de ces couloirs verts Kivu-Kinshasa, étant donné que nous avons suffisamment de potentialités forestières et environnementaux pour que nous puissions faire partie aussi de ces couloirs.
Revenons encore une fois dans le Nord Kivu avant d'aller plus loin. Difficile d'imaginer une cuisine sans charbon de bois. Chaque jour, des centaines de sacs sont vendus dans les marchés, quartiers et même au bord des routes. Une énergie indispensable pour les ménages, mais qui cache une réalité inquiétante pour l'environnement. Cette semaine, Radio Capi vous propose une série de reportages sur la fabrication du charbon de bois à Beni et ses conséquences sur l'environnement. Pour ce premier numéro, immersion dans le quotidien des habitants. Reportage Martial Papimukeba.
Dans les marchés de Beni, les sacs de charbon s'empilent. Les clients viennent s'approvisionner pour cuisiner au quotidien. Cette femme ménagère témoigne.
On est obligé aussi d'avoir le charbon de bois. Nous utilisons ça tous les jours. Depuis que je suis mariée, j'ai 1 an et 5 mois, j'utilise ça. On achète même si ça monte de prix. Il y a aussi des cuisines dont on est obligé d'utiliser le charbon de bois.
Le charbon est partout et fait vivre de nombreuses activités. Dans un restaurant de la ville, cette tenancière explique.
Un sac de braise revient à presque $60, 135 000 francs congolais. Par exemple, dans un restaurant, j'utilise au moins un sac pour 2 jours ou une journée et demie. Les braises, c'est ça l'outil principal de la cuisine. On ne peut rien faire sans les braises dans le stock.
Une consommation quotidienne qui montre à quel point cette énergie est devenue indispensable, mais aussi la pression qu'elle exerce sur les forêts autour de Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Mais d'où vient tout ce charbon qui alimente la ville et comment est-il produit? Dans le prochain numéro de notre série sur la fabrication du charbon de bois à Beni, au Nord Kivu et ses conséquences sur l'environnement, nous vous amenons au cœur de cette filière.
Actualité internationale.
L'armée américaine a annoncé dimanche soir un blocus de ports iraniens à partir de ce lundi 13 avril 2026 à 14h temps universel, ajoutant que la circulation des navires transitant par les détroits d'Hormuz à destination et en provenance des ports non iraniens ne serait pas entravée. Plus tôt dans la journée, le président Donald Trump avait ordonné avec effet immédiat un blocus naval du détroit d'Hormuz pour empêcher tous les navires d'entrer et de sortir du détroit. Des annonces qui surviennent après l'échec des États-Unis et de l'Iran à trouver un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient au terme des négociations marathon à Islamabad au Pakistan.
L'invité.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, Muhindo Nzangi-Butondo, lance un signal fort pour la relance agricole, vision du chef de l'État congolais sur l'arrivage du sol sur les sous-sols au Maniema. Participant à la première édition de la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau, le patron de l'agriculture encourage la population du Maniema à la culture pérenne. Muhindo Nzangi-Butondo, notre invité, s'entretient avec Florence Kizalunga.
Muhindo Nzangi-Butondo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de donner un go dans la province d'Imanima dans la relance de l'agriculture. Monsieur le ministre, la province d'Imanima est une province minière. Qu'est-ce que la population peut comprendre de cette vision du chef de l'État par rapport à la relance de l'agriculture dans le pays?
La province d'Imanima, moi, dans mes livres, c'est pas une province minière. C'est d'abord une province agricole. Ce sont les gens qui sont en train de la faire aujourd'hui, une province minière. L'activité principale d'Imanima, c'est l'agriculture. Bon, maintenant, les gens ont abandonné l'agriculture et ils sont en train de vouloir trouver d'autres parades, notamment à réveiller les mines. Mais nous croyons que c'est une province minière. L'histoire de cette province nous le démontre. C'est la province qui disposait avant l'indépendance des plus grands nombres d'infrastructures agricoles. Donc nous considérons que c'était poumon agricole de l'Est de la RDC.
Vous reconnaissez que la province d'Imanima, c'est un poumon agricole. Qu'est-ce que le gouvernement central prévoit pour cette province?
Nous voulons relancer l'agriculture dans cette province à travers trois actions phares. La première, c'est la construction, la réhabilitation et l'équipement du CAPSA de Lubutu. L'objectif, c'est que nous puissions avoir une autonomie de production de semences. Pour les maniements, nous avons prévu les riz, les maniocs et les maïs. Deuxième action à faire, vous avez vu que nous avons commencé à implanter des pépinières dans chaque territoire. L'objectif pour nous, c'est d'avoir 250 000 plantilles de café, cacao et palmiers dans chaque territoire. Nous sommes déjà dans 4 territoires et nous croyons que les autres territoires qui restent, très rapidement, à moins de 2 semaines, ces infrastructures doivent être déjà implantées. L'objectif, c'est que toute personne habitant les villages au Maniema doit avoir à côté de sa maison au moins une petite plantation de produits pérennes. Et la dernière, c'est la structuration même de l'agriculture dans la province du Maniema. Cette structuration qui veut que dans chaque territoire, dans chaque village, les gens qui sont dans une filière puissent se constituer à coopérative. C'est très important. C'est pour cela qu'à travers la vulgarisation, nous envoyons des missionnaires dans toute la province pour essayer d'expliquer à la population que la relance de l'agriculture passe aussi par les mouvements associatifs, notamment par les coopératives. Donc, ce que nous allons faire, c'est la structuration de l'appui du gouvernement pour qu'effectivement les Maniema, tous ceux qui ont vécu de l'agriculture, puissent reprendre l'activité agricole.
Les Maniema a un sérieux problème de connectivité. Quelle politique que vous avez pour acheminer toutes ces semences dans les territoires?
Pour l'instant, nous sommes très handicapés. On n'utilise que l'avion et les motos. Mais comme vous le savez, nous avons un grand projet ici qui s'appelle Prédire et qui a l'ambition de pouvoir travailler sur les routes de cette agricole. Ce qui est de notre responsabilité, on va le faire attaquer le ministère de l'Agriculture. Mais je voudrais bien vous dire qu'il y a un ministre des ITPR et gouverneur des provinces qui doivent s'occuper des routes. Mais moi, je ne considère pas cela comme un frein. Je sais que la production que nous allons avoir va nécessairement aboutir à la réhabilitation des infrastructures. Nous avons des endroits, dans le territoire de Beni qui sont inaccessibles. Mais puisqu'il y a une grande production de cacao, les gens y vont là-bas pour chercher le cacao. Je voudrais que la connectivité ne puisse pas décourager les gens à produire.
Mais pourquoi dans la distribution des semences, vous privilégiez beaucoup plus les politiciens? Qu'est-ce que vous visez derrière les politiciens?
Moi, je ne privilégie pas les politiciens. En principe, toutes ces semences, nous les faisons pour la population. Et comme je l'ai dit, les plantilles que nous allons distribuer, on va distribuer obligatoirement. Là, on ne va pas demander aux gens leur avis. On veut que tout celui qui est en milieu rural puisse avoir une petite plantation à côté de sa maison. Donc, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais nous avons voulu de manière spécifique pour les Maniema, pas pour les autres provinces, que chaque notable, politicien ou pas, puisse avoir une ferme dans son territoire, dans son village natal. Et moi, j'ai dit aux gens, vous me disponibilisez un minimum, un maximum, bien évidemment, de 10 hectares. Moi, je vous accompagne à vous apporter la semence. Je sais pourquoi je l'ai fait pour les Maniema, puisque je sais que eux, ils ont un effet d'éclat. C'était levier. Les gens vont voir comment leurs politiciens, leurs notables, ils sont en train eux-mêmes de faire l'agriculture. Ça va les motiver à pouvoir le faire eux-mêmes.
Un mot à cette population.
Je voudrais dire à tous ceux qui seront séduits par cette idée que si aujourd'hui, malgré la guerre, vous trouvez les gens du Nord qui vous un peu plus fort financièrement, le secret, c'est l'agriculture. Et ce sont les cultures pérennes. Les cafés, les cacao et les palmiers. Je voudrais vous dire que ça, si nous nous y mettons, c'est ça qui va nous sortir de la pauvreté. Et je voudrais, en tant que vous dire aux gens du Maniema, que le Maniema ne doit pas rester derrière. Il faut que nous puissions prendre l'élan des autres provinces pour produire davantage et nous apporter des richesses.
Mouindo Nzangi Butondo, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre invité, le ministre Mouindo Nzangi, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et voilà qui met fin à ce journal du matin préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.